Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir, bonsoir à tous. C'est toujours Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. C'est maintenant l'heure de Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. C'est une émission tout à fait exceptionnelle puisque, enfin par l'horaire, puisque nous commençons à 19h cette semaine, puisque à 20h30 il y aura les prisonniers en fait, hein, l'émission sur les prisons qui diffuse un concert de soutien aux prisonniers et donc qui nous ont gentiment prêté leur créneau. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci. Ce soir, on va parler du PIAF. Alors, qu'est-ce que le PIAF ? C'est eh bien un journal alternatif. Et donc, on va un peu parler de la presse militante alternative dans une première partie de l'émission, puisque l'émission dure exceptionnellement une heure et demie. Et puis, on parlera eh bien de l'actualité tristement sociale, j'allais dire, mais c'est-à-dire des chiffres du chômage et puis de la négociation de la convention UNEDIC en deuxième partie d'émission avec Christian et Gilles. On se retrouve après ce qui suit.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Alors d'abord, on va commencer quand même par rappeler les chiffres du chômage qui sont tombés hier. Christian, puisque
oui,
toi, tu es...
c'est un triste record. On a battu le record de la décennie. En fait, on a un niveau de chômage très important, le plus grand depuis 10 ans. Donc avec 2 725 200 demandeurs d'emploi inscrits en décembre en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité et immédiatement disponible. On pourra reparler un peu tout à l'heure des catégories A, B, C, bon, parce que c'est assez complexe. Plus 3% d'augmentation l'année dernière, sur un mois plus 1%. Donc en fait... ce que ça montre et ce qu'on avait déjà évoqué dans les émissions des derniers mois, c'est quand même qu'on sent que cette politique économique ne porte pas ses fruits. Que aussi, et ça sera abordé aussi, la croissance, il n'y a pas de reprise en fait, c'est une croissance très faible. Je mets en garde tout le monde autour du mot reprise, j'y crois absolument pas. Qu'il y a des signaux faibles sur certains secteurs comme le prêt-à-porter qui se recompose depuis un an lentement. Disons que l'année 2010 a été moins catastrophique que 2009, 2011, il y a une espèce d'embellie. Que la haute couture, et ben en fin de compte, le pauvre Christian Lacroix, il porte sa croix. Qu'il y a quelques noms qui émergent en France, mais je parle de la mode et du textile parce que c'est assez moteur en image au niveau du pays, mais on n'est pas sorti de l'auberge.
D'accord, merci Christian, de toute façon on y reviendra tout à l'heure. Il faut quand même noter hein, parmi ces chiffres que c'est surtout l'augmentation du chômage de longue durée et du chômage des seniors qui fait craindre comme d'habitude une précarité, une pauvreté de plus en plus importante dans ces couches, dans les couches ouais. âgées de la population.
Il y a un phénomène de glissement vers la sortie des, je dirais, des statistiques. Les gens tombent dans la paupérisation, dans le RSA. Et de façon importante.
Voilà, et puis on parlera bien sûr de la négociation de la convention UNEDIC hein, et de savoir si oui ou non on va un jour indemniser un peu mieux les chômeurs. Alors on va passer maintenant donc au PIAF avec nos invités, donc Boris, Pierre et Jean-Marc qui êtes donc des fondateurs et des rédacteurs du PIAF. Alors le PIAF, qu'est-ce que c'est? C'est un petit journal A4 qu'on croise on tombe dessus dans les bars ou dans les points militants et qui s'appelle pour une information alternative forcément, d'où son nom. Ce qui est étonnant, c'est finalement pourquoi d'abord une presse militante qui soit pas tout à fait dans les cénacles des partis, hein, que des mouvements qui soient pas identifiés en mouvement, et puis aussi une presse qui est gratuite et qui n'a pas, qui ne prétend pas du tout fonctionner comme comme une entreprise commerciale. Alors peut-être que vous pouvez nous parler un peu de sa fondation au tout début. Alors Jean-Marc.
Bon, alors c'est relativement simple. Le PIAF est né en fait dans la foulée du débat sur le TCE en 2005, le traité européen, puisqu'il y avait les partisans du oui et les partisans du non et des collectifs du non. Et autour des collectifs du non, on s'est rendu compte du matraquage médiatique qui était fait pour le oui et de l'absence de couverture médiatique du non. Et ça nous a scandalisé pendant tout le temps de la campagne. Et quand le non l'a finalement emporté grâce à un élan d'information spontanée, en fait, des gens qui ont échangé par tous les moyens, notamment déjà à l'époque Internet, et des vidéos qui ont circulé, des petits tracts qui étaient faits un peu à droite à gauche, même par des amateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence incroyable pour l'information. On croyait depuis des décennies que personne ne s'intéressait plus à rien, et en fait on s'est rendu compte au moment du TCE que les citoyens se sentaient drôlement concernés et qu'ils avaient envie de reprendre leur information en main. Et puis au lendemain de la victoire du non que la presse a voulu nous voler et que le pouvoir a voulu me glisser sous le tapis, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être continuer et que l'appétence, si elle avait existé pendant un an pour le traité européen, elle pouvait continuer d'exister. Le problème, c'était de réaliser un journal qui soit dans la lignée de ce qui s'était fait dans le TCE, c'est-à-dire quelque chose de populaire, au sens noble du terme, quelque chose qui ne soit pas partisan, quelque chose qui aille au fond des problèmes et non pas sur des poncifs idéologiques. Donc tout ça, ça a donné un petit peu les caractéristiques premières du PIAF. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte rapidement que les collectifs du non se sont enlisés très rapidement après le résultat du référendum, et que si on voulait continuer, il fallait en passer par une presse alternative.
Alors vous affichez pas forcément la couleur, hein, au sens où pas de parti, pas de collectif, mais c'est vrai que quand on voit un peu la une, là il y a pas de doute, hein, l'Europe, le marché mondial rendra les peuples heureux, entre parenthèses de Grout Force. Alors ça c'est bon, ça on y reviendra après, hein, mais c'est un aspect qui est intéressant, c'est que vous penchez de très près sur les textes européens, enfin sur ce qui se fait en Europe et sur les textes de l'OCDE international. Alors là on est à Haïti, donc j'imagine que le prochain numéro parlera de la Tunisie. Et puis aussi un peu en société, alors sur la revalorisation du SMIG, les prud'hommes, alors tous des thèmes qui sont finalement abordés, qui passent peut-être pas à la trappe dans les journaux traditionnels, mais qui en tout cas effectivement sont toujours abordés de façon très très neutre, sans implication, enfin sans forcément que ce soit bien répercuté l'implication pour les salariés, ce qui évidemment là est pas du tout le cas. Alors vous pouvez nous expliquer un peu comment vous fonctionnez?
Alors là je crois qu'il faut repartir aussi sur la plateforme du PIAF et les concepts fondateurs, c'est qu'on veut faire quelque chose de citoyen et quelque chose justement qui aille au fond et non pas dans le superficiel. La presse depuis des années se contente en fait le plus souvent de répercuter des communiqués de presse du pouvoir ou de différentes institutions liées plus ou moins au même pouvoir, et donc ça ne permet pas d'aller au fond des choses. Donc l'un des présupposés pour les articles du PIAF, c'est justement d'essayer d'aller au fond.
Oui, d'ailleurs, on voit dans vos articles qu'il y a énormément de notes de bas de page, et ça c'est très agréable pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on dit voilà les rapports, c'est la magie d'Internet, hein. Ouais. Les rapports sont disponibles et consultables sur Internet. Oui, c'est nous.
Et on a les références en fait. Hein.
Ouais. Voilà. Et il y a une caution, donc c'est une caution, une caution universitaire pratiquement. Il y a des universitaires parmi vous?
Alors, il y a beaucoup de monde parmi nous. Oui, il y a des universitaires. Il y a le milieu militant, Pierre, traditionnel, oui, avec beaucoup d'enseignants, beaucoup de gens qui ont peut-être du temps libre pour s'occuper de ce genre de choses, des retraités, etc., des plus ou moins actifs parfois. Bref, on a du monde pour nous aider. En fait, c'est même le point de départ du PIAF, c'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement une équipe de rédaction, On est à l'écoute de tout ce qui peut circuler comme information sur Internet ou même dans le reste de la presse alternative ou non. Et c'est en partant de beaucoup d'informations qu'on n'a pas forcément ni les moyens ni le temps d'aller chercher. On recoupe, on prend parfois carrément, lorsque les auteurs de certains blogs nous le permettent, l'intégralité de leur texte. On essaye de refaire un travail de rédaction pour le rendre compréhensible, de mettre les notes les plus compliquées en bas de page pour que le début de l'article soit simple, etc.
Oui, c'est un travail éditorial. Alors c'est compliqué à ce point-là, hein, les blogs ou les textes, il y a vraiment besoin d'un... Ou alors c'est le format, peut-être aussi, qui fait... C'est un format A4, donc c'est pas très courant, hein, en presse écrite.
Ouais, ben en fait, on essaie aussi de faire des articles courts.
Boris.
Merci. De faire des articles courts pour que ça soit facile d'accès à la lecture. Et donc on dépasse jamais une page, a priori. Et c'est souvent une demi-page, c'est quand même le mieux. On essaie aussi de coller un peu au format des gratuits en termes de longueur et de présentation. Et voilà, on veut que tout le monde puisse, d'un adolescent jusqu'à quelqu'un qui ne connaît pas les sujets dont on parle, puisse le lire et le comprendre.
D'accord. Alors une question quand même, hein. Pourquoi s'arrêter, pourquoi faire de la presse écrite, puisqu'après tout il y a Internet, et puis ma foi, on a un outil bien plus extraordinaire via Internet. C'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller imprimer, d'aller tirer, tout ça.
Alors effectivement c'est plus compliqué et c'est parfois assez rock'n'roll pour arriver à faire le tirage et à fournir le papier et la main d'œuvre pour l'impression et la distribution. Mais si on tient absolument à avoir une diffusion papier, c'est justement parce que c'est tout public le papier. Alors que qu'on le veuille ou non, Internet reste un barrage pour beaucoup de gens et ça demande une démarche active de recherche. Alors que lorsqu'on a le PIAF dans une librairie ou dans un coin militant, on attrape le PIAF, on est dans le métro et on a directement des informations. Et par contre, si on est intéressé par l'article, qui est une accroche donc sur le fond, eh bien on a des références internet pour pouvoir approfondir. Mais c'est très différent de beaucoup de journaux militants qui s'adressent en fait par le net à d'autres militants. Et l'idée du PIAF, c'est de dépasser justement le cercle militant.
Gilles ?
Oui, vous avez fait le choix de que ce soit gratuit pour, c'est une question de, pour que tout le monde puisse y avoir accès ou c'est une question parce que vous avez pour l'instant pas de financement est-ce que vous faites des recherches de financement au niveau des banques ou ailleurs ? Non, enfin, banque ou...
Bon, on a mis une petite annonce à Davos, mais pour l'instant, ça marche pas. Non, il y a un double point de vue sur la gratuité. C'est d'une part que ce soit accessible absolument à tout le monde, parce que la presse traditionnelle se casse la figure, entre autres, parce qu'il y a la concurrence des gratuits. Et les gens, finalement, veulent bien de l'information, ils veulent plus payer pour cette information. C'est aussi une des conséquences de la télévision et d'Internet. Et puis l'autre chose, c'est que si on veut être indépendant, bah, il ne faut pas de publicité, il ne faut pas de financement.
Vous avez Christian.
Vous avez des correspondants internationaux, parce que je lisais un article sur Haïti, on s'y croirait, quoi.
Oui, alors, c'est pour compléter la question, c'est vrai qu'on a l'impression que vous mutualisez hein, énormément les, enfin, les savoir-faire et les compétences.
Alors, on a eu pas mal d'intervenants qui sont passés par le PIAF. Si on comptait le nombre de personnes qui ont fait des articles, ça serait un chiffre assez impressionnant sur les quelques années d'existence. Parce qu'effectivement, on a pu avoir des gens de passage qui sont venus nous amener des articles. Et on a toujours une blague récurrente au PIAF, c'est que personne n'a jamais dit qu'il quittait l'association ou qu'il quittait l'équipe de rédaction. Donc, on garde quelqu'un qui part en voyage, qui nous envoie des articles, etc. C'est même cette force qui est la force du milieu militant actuel. Bon, évidemment câblé grâce à Internet, mail, blog, etc. et dans lequel on va puiser régulièrement et finalement avoir une information qui n'est pas plus ou moins crédible que celle des journaux traditionnels.
Tout à fait. Il y a des articles sur la suite du Grenelle de l'environnement, donc vous reprenez un rapport du RAC. Je pensais à une chose, est-ce que vous imaginez mettre un jour PIAF sur un e-book ?
Alors, l'informatisation, c'est vrai qu'on vient de dire qu'on essaye et qu'on tient à la version papier. Bon, on n'avouera pas forcément le tirage papier, hein. On n'est pas non plus diffusé massivement dans toutes les ruelles de France. Et c'est sûr que c'est Internet qui assure le maximum de diffusion. On espère d'ailleurs que chaque personne prend le temps, après avoir lu son PIAF, de le donner à son voisin, histoire d'augmenter encore la diffusion. Mais c'est Internet qui tient la route. Donc c'est un PDF, pour employer le mot technique, et si la personne veut le lire sur l'écran de son ordinateur ou de la dernière technologie possible, nous, on sera contents.
Alors, est-ce que vous estimez finalement que, ma foi, les journalistes ne font pas très bien leur travail et que vous avez besoin, vous, de vous y substituer en tant que militant bénévole et avec la garantie de n'être pas payé pour ça et donc ce qui fait foi de votre honnêteté?
Alors ça, c'est une question excessivement dangereuse parce que le métier de journaliste, c'est vraiment un métier, même une profession. C'est un sacerdoce parfois, vu qu'il y en a certains qui sont payés en tant que pigiste à coup de lance-pierre pour faire un travail éditorial sur plusieurs années. Et on ne veut absolument pas qu'on remette en cause cette notion de profession de journaliste. On pourrait presque dire qu'on n'est pas journaliste au PIAF, et c'est vrai d'ailleurs, on a tous soit une autre activité, on a après les activités pour les retraités qui sont parmi nous. Mais en l'occurrence, l'idée même de faire ces journaux, c'est plutôt d'être une plateforme. C'est d'ailleurs même le premier mot qu'on avait utilisé pour décrire ce journal, c'est-à-dire d'être une sorte de nouveau vecteur pour amener une information qui existe dans la sphère militante et qui n'est pas accessible pour le tout un chacun.
D'accord, donc oui, effectivement, c'est plus d'essayer de centraliser, mutualiser et rendre accessible avec des arguments, on va dire, hein, quand vous citez vos rapports, c'est dire que aussi l'information militante n'est pas qu'une information pauvre ou idéologique.
Alors, on veut pas se substituer au journalisme, mais c'est vraiment une démarche de citoyen critique. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de tonalité partisane. C'est parce que c'est citoyen et critique. Alors évidemment, on peut pas se tromper, c'est un journal de gauche, hein, mais pas estampillé d'un parti ou d'un autre. C'est un journal citoyen de gauche, point.
D'accord, et donc ouvert à toute personne de gauche, bien entendu.
Moi, je trouve que la démarche est journalistique, puisque la teneur de vos articles, avec des accroches un peu au canard, genre canard enchaîné avec de l'humour, des jeux de mots, etc. Je trouve qu'il y a quand même une démarche journalistique. C'est effectivement une profession, mais il y a une écriture aussi. Donc, on peut être ou littéraire ou les deux. Hein, mais bon, on sent quand même qu'il y a quelque chose là.
Maurice ?
Ouais. En fait, on a une technique de travail un peu particulière. C'est-à-dire qu'on repasse derrière tous les articles. C'est-à-dire qu'il y a un rédacteur et il y a quelqu'un qui est chargé de relire et de mettre, on va dire, dans un certain format qui correspond à notre plateforme. Donc nous, on dit piafonner. Et il y a toujours quelqu'un qui repasse derrière pour justement le rendre compréhensible, clair, rajouter des notes, enlever des mots trop compliqués, et puis essayer d'avoir un français parfait. Oui. On n'y arrive pas toujours, mais...
Donc le travail de secrétaire de rédaction. Alors, moi, j'aurais quand même une critique, hein, c'est que la première fois que j'ai vu votre maquette, donc il y avait des trous dedans. C'est ce qu'on appelle des trous dans la maquette, c'est des espaces, hein, entre les. Et puis effectivement, alors c'est un des problèmes de la presse, hein, du grand public, et on allait même à la radio, c'est que finalement quelqu'un qui est pas du tout militant, il tombe sur une feuille de chou qui est mal présentée. Et la première chose à laquelle il fait attention, c'est la forme avant le fond. Et on peut parler de ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui est averti et qui consulte bien et voit tel rapport, constate tout à fait que c'est du sérieux, quelqu'un qui l'est pas du tout, il dit ils sont pas très bien informés ces gens pour dire ça, pour écrire ce genre de choses. Alors est-ce que vous avez une réponse à ça?
Alors, merci de parler aux maquettistes. on fait avec les moyens du bord, et je suis pas maquettiste professionnel, donc on a aussi tout un problème de technique, et ceux qui veulent nous rejoindre pour faire une meilleure maquette sont tout à fait les bienvenus. Alors, on essaye quand même d'avoir une réflexion sur la maquette, on va peut-être d'ailleurs la remettre en cause prochainement. Et d'ailleurs, on a eu une communication par personne interposée avec un journal sur lequel on a un peu servi de modèle, c'est le New York Independent. Alors, c'est évidemment une autre taille, c'est 200 000 exemplaires par semaine à New York, qui se veut être un peu dans la même démarche, être indépendant, être gratuit. Bon, ils sont financés à l'américaine, il y a de la pub, il y a tout ce qu'il faut, des concerts de soutien. On n'en est pas là, pourquoi pas un jour. Mais ils nous ont reproché, en découvrant par personne interposée donc le journal, qu'on était tout à fait enfantin, avec une forme un peu arrondie, des dessins qui sont un petit peu spéciaux, avec parfois des animaux, etc. Or, on a eu l'impression, alors peut-être qu'on fait des erreurs et qu'on ne touche pas tout le public à cause de ça, que cette petite touche un peu plus, on va dire, enfantine, juvénile, un peu plus légère, juvénile, accède aussi à certains lecteurs qui auraient du mal à aller lire. Alors peut-être que les Parisiens qui lisent le métro tous les jours vont être habitués à ces journaux bien faits, parfaits, avec une page de pub, avec tout ce qu'il faut, en première page, de la couleur qui brille. On ne peut pas faire ce genre de cadre. Alors c'est ce cadre-là qui peut-être nous permet d'être un, une autre crédibilité, peut-être.
D'accord. Alors, au niveau de la distribution, hein, vous tirez à combien d'exemplaires, messieurs, et est-ce que, quel point de distribution vous choisissez? Parce que c'est important, quand même, hein. On sait très bien que les journaux militants, on a tendance, ou les journaux de la mairie, on va dire, on a tendance plutôt à choisir des quartiers où électoralement ça marche. Est-ce que vous faites pareil?
Alors là, c'est beaucoup plus empirique, en fait. C'est qu'on distribue là où on peut, en fonction des disponibilités des uns et des autres et des origines géographiques des uns et des autres. Parce qu'il se trouve qu'il y a des Parisiens, il y a des gens de différentes provinces de France qui ont de la famille à droite à gauche, et donc ça permet de diffuser le PIAF. En ce qui concerne le tirage, c'est confidentiel, parce que sinon le ministère de l'Intérieur va tout de suite nous plastiquer. Mais bon, ça se compte en dizaines de milliers.
Alors justement, est-ce que vous remplissez les critères des publications? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déposé, par exemple, un exemplaire au ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous êtes astreint à tout ça?
Alors, on est astreint à tout ça exactement comme n'importe quel journal. C'est-à-dire qu'on a été forcé de se créer en association, de faire un dépôt légal, donc aussi bien au niveau de la Bibliothèque nationale qu'au niveau du ministère. Sauf que ça vient de changer, le ministère ne veut plus recevoir les périodiques. Mais on nous a quand même menacé de 1000 foudres et de 12 000 amendes si on n'envoyait pas.
Oui, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas fait au départ et puis voilà. On vous a rappelé à l'ordre.
C'est surtout qu'on a un principe de travail collectif et nous n'avons pas de directeur de la publication, nous sommes tous directeurs de la publication en même temps. Et le ministère de l'Intérieur n'avait pas ça dans les cadres de ses formulaires, on ne pouvait pas cocher la bonne case.
Vous luttez contre la caporalisation de la société, alors?
Tout à fait, tout à fait.
Oui, alors je me souviens, sur les premiers PF, il y avait une mention, cette licence, ce journal est fait avec une licence gratuite. Ça veut dire quoi?
Alors c'est la licence copyleft, c'est-à-dire à la fois que les articles peuvent être repris, peuvent même être modifiés à partir du moment où la source est bien citée, donc elle peut être reprise là où on veut. On a d'ailleurs été repris dans des journaux divers, même dans des journaux qui a priori pouvaient être surprenants, comme des journaux catholiques par exemple, qui ont trouvé que nos articles de gauche étaient à leur goût. Néanmoins, copyleft, ça signifie aussi que les articles peuvent être modifiés avant d'être diffusés. Et nous, on tient beaucoup à cette notion parce que justement, les gens qui nous envoient des articles, la première chose qu'on leur dit, c'est attention, on va vous modifier votre article pour le faire le correspondre le mieux possible à notre lectorat, c'est-à-dire non pas sur le fond, mais sur la forme. Ouais. Et ce travail-là, ça demande parfois de quitter un peu l'amour propre. On a fini son article, on est très content, on a mis son style. Si au bout de trois lecteurs, les trois lecteurs disent c'est un petit peu lourd, ou t'as voulu faire une blague qui ne va pas être perçue de la même façon par tout le monde, il faut accepter ce retravail.
D'accord. Donc oui, on a compris que on a compris qu'en fait il s'agissait d'abandonner vos droits d'auteur en quelque sorte, hein, puisque vous-même vous reprenez un certain nombre de gens et de laisser un libre accès à l'information, c'est ça, l'information gratuite. Et vous n'avez pas peur que, comment dire, que ça tourne un peu à la Wikipédia, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'on puisse modifier tout et n'importe quoi dans les articles?
Merci Ludo.
Merci. Les liaisons sont exceptionnelles ici. Alors on a justement un nouveau projet, et c'est pas une peur, c'est même un désir fort, c'est que ce travail que l'on fait autour d'une table sur Paris pourrait se faire au niveau du tout le monde francophone qui voudrait bien coopérer, c'est-à-dire de mettre son amour propre de côté, de proposer des embryons d'articles, et puis que ce soit la communauté de tous ceux qui veulent agir, qui rédigent, et qui mettent à disposition copyleft, comme on vient de l'expliquer, de toutes les productions possibles d'informations et d'idées. Alors évidemment, on vient de redire qu'on était plutôt largement de gauche dans nos opinions, donc c'est pas pour pouvoir dire que n'importe quelle idée pourrait être rediffusée par ce biais, mais à partir du moment où quelqu'un a quelque chose à dire et que c'est écrit de manière lisible, on pourrait s'amuser à le diffuser. Alors de Wikipédia, on pourrait passer vite à d'autres mots. Alors un mot qu'on aime bien mettre en avant en ce moment, c'est Wikialter, c'est-à-dire faire un wiki alternatif, le wiki de la presse alternative, où l'ensemble des journaux alternatifs, et on n'est pas le seul, pourrait donner ses articles de manière à être repris et diffusé plus largement. Et on pourrait aussi imaginer que la capacité qu'a l'Internet d'être beaucoup plus présente, c'est-à-dire réactive en fonction de l'actualité, etc., permettrait dans un futur proche d'avoir un outil de mutualisation des articles pour tous les journaux, et aussi un outil pour accéder à l'information qui ferait que chaque citoyen, le matin, au lieu d'aller acheter un journal du Grand Capital, pour employer les mots classiques, ira sur Internet chercher ce que son, peut-être son voisin de palier aura envie de lui dire.
Merci. Eh bien, écoutez, on va d'abord passer une petite musique et puis on va se retrouver pour parler un peu du fond, des thèmes que vous abordez, notamment de l'Europe, de l'éducation, puisque je pense que vous vous sentez un peu concerné, et puis éventuellement de la Tunisie, hein, puisque c'est là que ça bouge. On se retrouve tout de suite.
C'est un petit air qui fait grincer les dents, un sale refrain plein de mort et pourtant pas une goutte de sang. Sans revolver ni quoi.
La lugubre mélodie
des assassins sans couteau.
Bonsoir. Bonsoir, c'est toujours FPP et c'est toujours Mode d'emploi, l'émission des précaires et des chômeurs. Ce soir, donc, nous recevons le PIAF, un journal d'information alternatif, évidemment classé à gauche, et qui, chaque mois, puisque c'est un mensuel, on a oublié de le dire, égrène un peu à la fois l'actualité internationale, les problèmes européens, et puis des choses franco-françaises, hein, plus sur. Alors, dans le dernier sommaire, c'est une des particularités de votre journal, c'est que vous êtes donc fondé sur le non au traité européen. Suite au non au traité européen, comme tu l'expliquais, et vous avez toujours un regard, intéressant sur l'Europe, c'est-à-dire toujours une veille informationnelle sur l'Europe, ce qu'on voit pas tant que ça dans les journaux traditionnels. Alors je sais pas qui veut parler de la manière dont vous procédez quand vous avez des informations européennes qui vous arrivent ou comment vous y prenez.
Alors, comme on expliquait tout à l'heure, on a une veille scientifique qui est pas faite par nous forcément, qui est faite par à peu près toute la presse alternative d'autres, un peu du même bord que nous, et aussi des blogueurs et des associations et des partis. Alors, sans être forcément attaché à un parti ou des associations, on va piocher ici ou là les informations. Donc, il y a tout un travail qui est fait par la Fondation Copernic, par Attac. Par des associations de ce type-là, où ils ont une information qui est presque livrable au grand public. Le presque, il faut quand même le faire, c'est-à-dire essayer d'enlever les phrases un peu trop compliquées et mettre des exemples, en remplacer des courbes par des dessins rigolos aussi, ça marche bien. Donc en fait, cette information qui n'est pas dans le grand public, on joue bien notre rôle là, sur ce genre de thème de critique sur les traités européens. Et on a même, dans le prochain numéro... des traités économiques au niveau du Canada qui vont privatiser l'eau sans même que les Canadiens s'en rendent compte. C'est à peu près le même débat pour l'énergie en Islande. On va aussi faire un article là-dessus. Alors finalement, la presse ne parle jamais de ces textes. Alors on peut nous traiter aussi de parano en disant que quand un texte a été écrit au niveau européen, ça va immédiatement changer le quotidien des gens. C'est ce que répondent souvent les grands journaux en disant « Attendez, c'est jamais qu'une signature de là, ce que ça modifie votre loi au niveau français ». Sauf qu'on le voit quotidiennement maintenant.
Bien sûr, oui. Alors sur l'énergie, tu parlais de l'énergie. Là, je vois donc un article sur le gaz. Vous l'avez appelé du gaz dans les futurs tarifs de l'électricité. Donc on appréciera le jeu de mots. Oui, parce qu'en fait, il s'agit des tarifs de l'électricité. Alors c'est vrai que l'électricité est un exemple frappant à la fois de concurrence européenne, de concurrence libre et non faussée européenne, de privatisation du secteur de l'électricité, qui vire un peu au cauchemar à la fois pour le consommateur. Et qui s'est fait sans l'aval, sans le consentement des peuples concernés. Hein. Quelqu'un veut réagir un peu sur le tarif de l'électricité là, savoir combien notre facture va augmenter.
Ah bah ça, on c'est sûr que ça va augmenter, mais c'est le même problème pour les chemins de fer. On va voir dans quelques mois les tarifs augmenter de 3% à peu près, un petit peu moins, et on se rend compte qu'il y a des gros dysfonctionnements parce que les rails sont séparés, la gestion des rails est séparée de la gestion des circulations. Donc on se voit dans différents domaines, énergie et transport, les directives européennes qui obligent à la concurrence, on se rend compte que ça produit une augmentation des prix, et ça s'est passé dans tous les autres pays européens, donc c'est pas...
Oui, et en plus, c'est les secteurs qui sont, a priori, les moins privatisables. C'est-à-dire ceux qu'on voulait mutualiser. Donc, il fallait mutualiser les coûts, puisque, par principe, ils étaient déficitaires. Enfin, en tout cas, pas forcément pour l'électricité, mais en tout cas, pour les chemins de fer, ça coûtait cher. Hein.
Et puis la question de l'énergie est aussi une question profondément sociale. On le voit bien avec toutes les luttes qu'il y a eu ces dernières années, par exemple avec les agents de l'EDF qui remettaient les compteurs aux gens dont on coupait les lignes, et avec le projet absolument catastrophique de nouveaux compteurs électroniques de l'EDF qui va être payé au prix fort par tous les consommateurs et qui va permettre à EDF de couper à distance n'importe qui à n'importe quel moment, et qui par ailleurs va recueillir des données, et là on touche à un autre aspect de notre société qui est un peu le côté Big Brother de notre société. C'est que grâce à ces super compteurs espions, on va pouvoir étudier la consommation machine par machine, pratiquement ampoule par ampoule dans les foyers, ce qui va permettre de cibler les consommateurs. Donc on est passé du citoyen au consommateur, et là on a un consommateur qui devient complètement captif.
Alors les plus touchés au niveau EDF vont être les plus démunis. Donc ils vont avoir un tarif qui va augmenter sensiblement, et on se demande comment ils vont payer leur électricité. Alors qu'est-ce que vous avez comme attaque à ce niveau-là?
Ah bah, nous, malheureusement, nous n'en avons pas parce que nous ne sommes pas au pouvoir, mais peut-être un jour.
espérons-le.
Oui, espérons qu'il y aura un super tarif social pour les chômeurs, d'électricité pour les chômeurs, ce qui paraît-il est le cas dans le RSA, ou qu'il y ait des nouveaux Robin des Bois. Quelqu'un veut réagir encore?
Ouais, je voulais aussi ajouter sur l'énergie que l'énergie, ça touche aussi à un problème qui est très à la mode, mais qui est très galvaudé aussi, c'est le problème de l'écologie. C'est qu'il y a depuis quelques années un capitalisme écologique, c'est-à-dire qui se donne un vernis écologique, et on voit par exemple Areva qui se permet d'apparaître sur des affiches pleines de forêts luxuriantes, alors que c'est le numéro un de l'atome en France, ce qui est absolument scandaleux. Et en fait, derrière des problèmes énergétiques et des fausses décisions sur les énergies renouvelables, on voit aussi des décisions qui sont purement économiques. Et là aussi, il faut évidemment le dénoncer.
Ce que je trouve aussi intéressant dans la démarche de Piaf, c'est de regarder un peu les fonctionnements à l'envers. On peut se demander si Areva ne communique pas sur les énergies renouvelables, ce qu'ils font, parce que quand on voit leur... le slide à la télé avec le site de production d'éoliennes, etc. C'est même Areva qui fait la pub. Parfois, je me demande s'ils sont pas en train de faire crever le système justement par l'intérieur, c'est-à-dire en faisant pas grand-chose en fin de compte. C'est-à-dire il y a une logique un peu de colonisation du secteur de l'énergie renouvelable par des grands consortiums qui font semblant de faire des choses sans d'ailleurs associer les PME. Et d'après moi aussi sans associer le secteur coopératif, parce que c'est pas du tout leur souci, la question sociale étant bien entendu évacuée d'emblée, quoi. Donc c'est vrai que si vous avez un regard par exemple sur d'autres pays comme le Canada, ou s'il se passe des choses plus intéressantes dans d'autres pays qu'en France, c'est certainement le cas, c'est intéressant. Moi j'ai presque l'esprit un peu, quand je lis, d'un monde diplomatique avec de l'humilité qui fait un peu travail de fourmi sur le terrain.
Et ça, c'est une critique qu'on peut vous faire. Hein. C'est vrai que vous ressemblez un peu au monde diplomatique et ça nous change pas trop. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense?
Alors, on va pas se défendre parce que le monde diplomatique est un très bon journal. Il a juste un inconvénient, c'est qu'il a des articles extrêmement longs et extrêmement savants. Donc, au contraire, on trouve ça très flatteur d'être comparé au monde diplomatique. On veut être un monde diplomatique light et lisible par tout le monde. Donc les thèmes sont les mêmes, mais la mise en page, le choix des articles courts fait que, en utilisant des thèmes qui sont parfois ceux du monde diplomatique, on peut être lisible par 90% des gens.
Boris?
Non, c'est ce que je voulais dire.
Non, c'est ce que tu veux dire, c'est parfait.
Je vais vous poser la question, parce que moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir lu quelque chose sur les RAZ. Et alors peut-être que ça a été fait. Hein,
tu peux peut-être expliquer ce que c'est.
C'est des psychologues, enfin des instituteurs spécialisés, les psychologues qui accompagnent les élèves dans le cadre de difficultés scolaires. Et on voit, comme tu parlais tout à l'heure avec l'électricité, qu'il y avait effectivement Big Brother qui était derrière. Il y a également, on va passer sur l'enseignement en deux minutes peut-être, Il y a également bas élèves. Donc là, il y a Big Brother aussi sur l'enseignement. Donc, est-ce que vous avez fait des articles là-dessus? Est-ce que vous allez en faire
Alors, on peut pas trop nous reprocher de faire des articles sur l'enseignement parce qu'on en a à peu près 2-3 par numéro. Parce qu'on a une base militante enseignante à l'intérieur du PIAF. Donc, on a fait au moins 3 articles sur les RASED et 4 sur bas élèves.
J'ai pas lu ça.
On est même d'ailleurs en train de construire encore d'autres articles. Par exemple, sur la construction du fameux retour du livre ouvrier. Alors c'est peut-être une blague militante, mais non, on a à travers bas élèves, à travers les livrets de compétences, les évaluations CM2, on voit ressurgir ces fichiers informatiques qui circulent à travers les âges différents de la vie, qui sont comme un boulet porté par les élèves jusqu'à leur vie d'adulte, où on va ficher toutes les bêtises qu'ils ont pu faire, toutes leurs notes, etc. En dépit de toutes les lois qui ont déjà condamné, par exemple, les fichiers bas élèves pour le primaire au niveau de la Cour européenne, au niveau même de décisions prises dans le cadre de l'UNESCO pour la défense des droits de l'enfant, etc., la France persiste à vouloir maintenir ces différents fichiers. C'est un petit peu le même débat que les fichiers qui existent pour ficher les individus délinquants, enfin soi-disant délinquants, où bizarrement ces fichiers n'existent pas lorsque on veut pouvoir mettre une plainte dessus. Or à chaque fois on voit surgir les fiches données par la police.
Thierry.
Oui, dans l'enseignement on voit surgir maintenant les élèves qui n'iront pas en cours se verront leur bourse enlevée et même voir les parents les droits de la CAF enlevés. Est-ce que vous avez fait des articles là-dessus et qu'est-ce que vous avez comme regard envers cette politique un peu draconienne du gouvernement?
Alors, il n'y a pas d'article spécifiquement là-dessus, on en fera peut-être à l'avenir, mais par contre c'est récurrent dans nos articles, en ce sens qu'on dénonce la normalisation de la société par le pouvoir politique et la volonté de casser les classes populaires par tous les moyens. Et le retrait des allocations pour les élèves absentéistes en fait partie.
C'est une idée perverse. Ça veut dire qu'en fait, pour gérer ce genre d'idée, il faut un fichier. Donc souvent, moi, je m'aperçois qu'on a une droite qui jette des idées perverses en l'air. Et il y en a toujours un qui la reprend au bon et dit mais il faut un fichier en fait. On n'y arrivera pas sinon. Il se pose même pas la question de savoir si éthiquement c'est acceptable, sans consulter bien sûr les enseignants.
C'est vrai que ça nécessite un croisement tout ça. C'est-à-dire il faut aller consulter la CAF, il faut voir qui fait quoi. C'est très intrusif hein, par rapport à la sphère privée des familles qui envoient leurs élèves à l'école.
Alors c'est peut-être là que je vais reprendre une minute pour reparler de bas élèves et des livrets de compétences. Il faut savoir que en fait à tous les niveaux de l'éducation, de la maternelle jusqu'au collège et bientôt au lycée et à l'université, ce sera pareil. On va faire des évaluations par compétences, c'est-à-dire qu'on ne passe plus des examens, mais les enseignants, dans une sorte de contrôle continu assez arbitraire, vont avoir des questions et ces questions, ils vont devoir répondre par oui ou par non pour chaque élève. Ce qui permet de rentrer dans un système binaire informatique. Donc on rentre dans une normalisation binaire absolument absurde, qui ne tient pas compte de la culture, qui n'a aucune finesse, et qui ne prend pas en compte justement la finesse de l'être humain. Donc ça c'est déjà un énorme problème. Deuxième problème, c'est que ces fichiers, on s'aperçoit que c'est un puzzle qui se met en place petit à petit, de la maternelle, le primaire, puis le collège, ensuite ça va aller au lycée, ensuite à l'université, et pourquoi pas après Pôle emploi, certains parlementaires de droite en parlent déjà, ce qui fait que des compétences, entre guillemets, notées sur ce système binaire ridicule dès la maternelle, pourront servir aux employeurs 20 ans plus tard. Et il faut se dire aussi que ces soi-disant compétences ne se limitent pas à des champs scolaires, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas simplement à avoir des compétences par matière, mais qu'il va y avoir des comportements notés. Des aptitudes de comportement sociaux. Donc c'est véritablement la normalisation sociale et le contrôle social.
Moi je confirme parce que, je prends un exemple personnel, mon fils que j'ai inscrit en CP cette année, le directeur de l'école m'a demandé comment il se comportait au niveau comportement. Enfin comment il était au niveau comportemental. Et j'étais extrêmement choqué. C'est-à-dire que bon là, le comportement on doit le gérer en tant qu'enseignant. Donc voilà, on le punit ou on le punit pas, mais ça c'est chacun voit comment il est à sa porte. Hein. Mais que le directeur me pose la question, ça m'a scotché, quoi. Effectivement, ça va dans ton sens.
Et n'oublions pas que le Sarkozy, lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur et candidat, avait proposé un fichage des enfants dès la maternelle sur les comportements déviants.
Ça vient un peu de la, d'après moi, enfin de l'optique américaine hygiéniste.
Et c'est behaviorisme en fait.
L'hygiénisme social avec ce que ça comporte et le behaviorisme est appliqué bien sûr à l'économie, ça, le darwinisme et sa faire. Mais en même temps, pour limiter le risque social, et ben on va ficher un peu tout le monde comme ça, on est sûr que ça bouge pas trop. Moi, j'ai envie de dire aussi, en relisant un peu tout à l'heure, tu m'avais montré le livret. Moi, ça m'a rappelé un peu la stratégie d'accueil des réfugiés politiques en France. C'est-à-dire quand on leur présente ce qu'est l'État français, c'est complètement lénifiant. C'est pas léniniste, c'est lénifiant, quoi.
Il faudrait peut-être rappeler ce qu'est le livret ouvrier, hein, juste 5 minutes quand même pour les auditeurs qui ne le savent pas.
Alors, le livret ouvrier, je vais essayer de faire court, c'est l'enfant de la loi Le Chapelier et de Napoléon. C'est-à-dire qu'au moment de la Révolution française, on supprime les corporations, et sous prétexte de supprimer les corporations, en fait, on va empêcher tout mouvement syndical. C'est ça le paradoxe. Et Bonaparte, quand il devient le petit dictateur que nous connaissons bien, va transformer ça en une espèce de passeport pour les ouvriers, et chaque employeur va marquer une sorte de visa lorsque l'ouvrier s'en va de son entreprise. Et ça va durer jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, un ouvrier qui va s'être pris de bec avec son patron va avoir un mauvais texte dans son livret ouvrier et il est condamné au chômage.
Voilà, donc c'est vraiment le contrôle absolu sur l'ouvrier. Il faut préciser, je le dis, mais vous allez peut-être rebondir là-dessus, qu'aujourd'hui, ce genre de livret s'applique parfaitement aux sans-papiers ou aux bénéficiaires de titres de séjour.
On peut même prendre encore un poil de recul en se rendant compte qu'à chaque fois qu'un gouvernement bien à droite veut prendre un peu de pouvoir, il faut qu'il puisse avoir les moyens de gérer, de connaître, de pouvoir maîtriser les choses. Du livre ouvrier avant, maintenant on a des fichiers de police, on a des fichiers bas élèves, on a un même fonctionnement. Alors de fichisme à fascisme, je ne ferai pas encore un jeu de mots de plus,
une lettre,
mais on n'est pas très loin. Et effectivement, comment est-ce qu'on peut construire un pouvoir fort sans avoir les moyens de cette action? Et alors, on parlait de behaviorisme, je rappelle quand même la belle phrase de notre ministre de l'Intérieur des années Chirac, c'est le même qu'on a en la présidence tout de suite, qui rappelait qu'il n'a, lui en tant que ministre, n'a pas à savoir pourquoi un jeune casse une cabine téléphonique, il avait pris cet exemple, il a juste à le punir. On a des bons fondamentaux d'éducation cachés derrière.
Par contre, depuis chez les enfants, on croyait pas qu'en sortant du lycée ou d'un CET, ils ne trouveraient pas tout de suite à la case chômeur parce que le patron, vu qu'il va voir le fichier, s'il est informatisé, il va voir. Oh ben lui, c'est un mauvais élève au boulot, il va foutre que la merde, c'est même pas la peine de l'embaucher.
C'est bien ce qu'on peut craindre et c'est bien justement ce qu'on dénonce et ce qu'on va faire, je pense, dans l'article du prochain numéro du PIAF, c'est de montrer que ces fichiers qui ont l'air simplement statistiques, anodins et qu'on veut nous vendre comme étant des choses simplement des outils de gestion de l'éducation nationale, dépassent largement le cadre de l'éducation nationale, veulent gérer les comportements et qu'on ne sait pas du tout comment ils vont être regroupés et à partir du moment où ils seront regroupés à l'échelle nationale, qui y aura accès? Et à titre d'exemple, il y avait eu, il y a quelques années dans l'éducation nationale, un mini-scandale parce que des marques de vêtements pour adolescents avaient passé des accords avec des rectorats pour sponsoriser des actions sur la drogue, sur différents comportements. Donc c'était très bien, ça faisait très bonne conscience pour tout le monde. Et sauf que le fait de parler sur les sites des rectorats de la drogue leur permettait de mettre de la publicité et d'imposer leur façon de voir la société.
Super, nos logos, comme disait l'autre. Juste pour changer de sujet tout en restant dans le même sujet, c'est vrai que ces bases de données, cette normalisation se fait alors que il y a de moins en moins d'adultes finalement dans les collèges et dans les lycées et qu'on supprime pas mal de postes ou qu'on précarise la fonction. Donc finalement c'est un peu ça le remède, hein, c'est-à-dire faire reporter la responsabilité à la fois de la discipline, de la réussite scolaire sur les enfants, tout en déchargeant l'institution scolaire de ses missions. Vous en pensez quoi vous-même, puisque je sais que vous êtes un peu concerné par la question? Il y a un débat pour savoir qui va répondre, parce que...
Bon, bah alors sur le problème de l'éducation et des suppressions de postes, bon, bah, je crois que tout le monde commence à savoir que à force de dégraisser le mammouth, comme avait dit un célèbre ministre, bah, il n'y a plus de gras, il n'y a plus de viande et on attaque l'os. Encore 16 000 suppressions de postes à la rentrée, les effectifs montent partout, on n'a plus de remplaçants nulle part et c'est une véritable catastrophe, en particulier bah, dans les zones les plus difficiles, parce que c'est là où l'absence de professeurs est la plus ressentie et la plus grave. Donc ça c'est la première analyse et la deuxième chose c'est que en termes de diminution c'est aussi une manière de faire un choix de société. Quand on diminue les capacités de l'école, quand on diminue le nombre de professeurs et qu'on augmente le nombre d'élèves, tout en connaissant très bien les difficultés, parce que les ministres savent très bien les difficultés et ce qu'il faudrait faire, eh bien ça veut dire qu'on fait le choix d'une école au rabais. Une école au rabais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un tri social entre ceux qui auront les moyens d'avoir des à côté de l'école, et on voit la défiscalisation de tous les cours privés qui profitent aux classes les plus aisées. Par contre, les gens qui ont vraiment besoin d'aide, c'est-à-dire les classes les plus populaires, eux, ne payant pas d'impôts et n'ayant pas les moyens de toute façon d'avancer la somme, ne peuvent pas avoir de crédit d'impôt et ne peuvent pas payer les cours particuliers, des académias et compagnie. Donc c'est un tri social aussi. Et ça veut dire qu'on prépare la soumission de catégories entières de la population dès l'école.
Bienvenue dans le meilleur des mondes, Christian.
Oui, ça me fait penser aussi à une espèce de critérisation de la société, mais négative. Alors après, on a parlé de discrimination positive, je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais si on prend par exemple le critère du collège de moins de 200 élèves, tac, on le supprime. En fait, il y a comme des seuils. En fait, j'ai l'impression que ces grands ministères ont une logique complètement quantitative. Et donc, il y a à la fois un malaise au niveau du quantitatif. Ils ne regardent pas, ce qui se passe localement et ce que ça va générer comme fracture sociale dans certains quartiers. Et ce que tu évoques aussi, donc, cet aspect, de non prise en compte du revenu de chaque personne et donc de préserver une égalité républicaine dans l'enseignement, coûte que coûte.
C'est vrai que les ministères se réfugient souvent derrière le fait que c'est comptable, leur réforme. C'est avant tout le fait comptable qui fait que on doit supprimer des postes.
C'est vrai que toutes les décisions maintenant passent par une évaluation. Il y a même eu des lois avec des noms bien compliqués qui mènent à ça. Et aussi une sectorisation. C'est-à-dire qu'on va dire à l'inspecteur d'académie, on va dire au proviseur quel compte doit être rendu. On lui donne son budget pour gérer les vacataires qui servent de remplaçants, même si ils n'ont pas les compétences pour le faire. Et à chaque fois que l'inspecteur ou le proviseur fait mal son travail, il peut même être pénalisé, déplacé, etc. On a eu cette semaine l'arrivée d'une prime pour les proviseurs les plus méritants. J'ose même pas imaginer ce que sera l'évaluation d'un proviseur méritant. Est-ce que ce sera
élevé la prime, je crois, élevé, il me semble.
Une prime de 6 000 euros par
par an. Je me dis, ça y est.
Mais le cahier des charges du mérite n'est pas écrit. Si on prend celui aujourd'hui de par exemple des IEN, des inspecteurs d'académie. C'est plus exact, c'est très exactement de respecter le budget. C'est-à-dire, si une classe n'a pas de remplaçant, le tout, c'est que, évidemment, bah, on met pas de remplaçant, mais surtout qu'il n'y ait personne qui râle de l'absence de ce remplaçant. La belle règle en ce moment, bah, c'est d'agrandir les classes à côté. La seule chose qu'on sait vraiment, de manière universelle en enseignement, c'est que plus les effectifs d'une classe sont petits, mieux c'est. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que c'est par palier. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir maximum 15 élèves dans une classe pour vraiment pouvoir faire du bon travail, même moins, c'est pas plus mal. On n'est jamais arrivé à ce chiffre en France, ni même par...
Là, on en est à 40 par classe, à peu près, non ? Pas tout à fait, non ? 30 ?
Pour le primaire, en dehors des UP, c'est plutôt 35, etc. Mais dans les zones d'éducation prioritaire qui sont officiellement à 25, si on va faire un tour dans le 93, on trouvera beaucoup de classes à 26, 27. D'accord. Et surtout, le jour où un remplaçant n'est pas là et qu'une collègue ou un collègue tombe malade ou a un empêchement quelconque, on redispatche la classe. C'est-à-dire que finalement, ces chiffres absolus ne sont pas là. Et des inspecteurs ont le culot de dire « Oh, mais c'est pas très grave, vous allez voir. De toute façon, à cet âge-là, les enfants sont jamais tous présents, les parents veulent pas les mettre, ils sont malades. » C'est vraiment des arguments de bas étage, alors que la réalité, qui n'est d'ailleurs même pas constatée statistique, n'est absolument pas celle-là.
Alors, juste une chose, par rapport aux évaluations, parce que j'ai vu que dans l'enseignement, en tout cas dans le primaire, pour l'instant, je prends mon cas personnel encore une fois, c'est que là, apparemment il y a des évaluations toutes les semaines. Je trouve ça énorme. Enfin, la classe de mon fils, c'est comme ça que ça se passe. Je trouve ça énorme, alors que moi, j'avais un peu ce rêve des enseignements, un petit peu, comme tu disais, des classes, des écoles nouvelles, tout le monde est éclaté en petits groupes dans la classe, on fait chacun des activités un petit peu diverses et variées, et au choix de chaque élève. Et là, c'est vraiment, on revient à un enseignement des années 40, quoi. Je sais pas trop.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives pédagogiques et on en a connu des très jolies à la fois sur le papier théorique et puis aussi pour la vie des enfants devenus adultes qui sont passés par là, où on essaye de casser les barrières sociales, on essaye d'enlever la notion d'hiérarchie et puis d'apprendre autrement. On a complètement balayé ça et on revient vers l'examen régulier. Alors, on parlait tout à l'heure d'évaluation de compétences binaires. Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'avez pas? On a même, lorsqu'on passe au niveau universitaire, encore pire, c'est carrément une monnaie. Hein, le CTS, le C de CTS, c'est currency, le mot anglais pour argent. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une compétence, un module, ça nous donne tant d'argent. À ce niveau-là, on a même une mise en concurrence entre les différents enseignements, parce que ce qu'on n'a pas au collège ou au lycée, pour l'instant, c'est la concurrence entre établissements, la concurrence entre enseignants. Mais aujourd'hui, si un enseignant veut donner ses ECTS plus facilement qu'un autre, ben il a plus d'étudiants.
C'est comme on voit... dans certaines régions où au début d'année, tu as des profs qui sont manquants, qui sont pas en poste. Mais quand, en enlevant 1600 postes à la rentrée, 16 000 postes à la rentrée, eh ben, vous croyez pas qu'ils vont faire quoi les élèves quand ils vont arriver au lycée? Ben non, j'ai pas français aujourd'hui, je comprends pas, j'ai pas mon prof qui est là, j'ai pas anglais, j'ai pas maths, ils vont les mettre où?
Le problème, c'est qu'ils vont avoir français, ils vont avoir maths, mais le problème, c'est qu'à la place d'être 30 dans une classe, ils seront 35. Ce qui veut dire qu'on dégrade l'enseignement.
Est-ce que certains spécialistes d'éducation parlent de facture éducative? Parce que je pense qu'il y a aussi une volonté de transférer un peu vers l'extérieur, vers le privé, en plus, et c'est vrai qu'on se rappelle des mouvements, je me rappelle au moment de la laïcité, de la défense aussi, de l'enseignement privé, il y a eu des sacrés affrontements, je me rappelle encore.
Et c'est plus d'actualité là.
C'est plus d'actualité, mais ça revient un peu cette question-là, parce que justement, ceux qui sont arc-boutés sur l'éducation publique commence à se dire, on est en train de se refaire avoir une deuxième fois.
Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est plus d'actualité dans le sens où ça avait été fait à l'époque, hein, c'est-à-dire la suppression de l'enseignement privé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui préfèrent mettre leurs enfants dans les écoles privées.
Alors, deux remarques là-dessus, c'est que à l'époque du gouvernement Raffarin, plusieurs lois avaient été faites qui favorisent l'enseignement privé et qui obligent les collectivités locales, les municipalités, les départements à cotiser pour l'entretien des établissements privés sans contrepartie. Ce qui veut dire qu'on a créé une inégalité. C'est-à-dire une inégalité qui est favorable aux privés dès l'époque de Raffarin. Et aujourd'hui encore, les collectivités, qu'elles soient de gauche ou de droite, sont obligées de cotiser pour les établissements privés qui torpillent la logique du service public. Et deuxième chose, là on rebondit sur la question européenne, c'est que à force de privatiser tous les services, les laboratoires, les banques, tout ce qui était national plus ou moins ou contrôlé par l'État en France, eh bien on a les gens du pouvoir ont un problème, ils ont besoin de nouveaux marchés. Et les nouveaux marchés, bah, y a l'hôpital, la santé. On l'a vu avec les retraites, on va le voir avec la Sécu dans les mois qui viennent. L'hôpital est complètement étrillé au profit des grandes sociétés privées d'hospitalisation qui vont rafler le marché. Et au niveau de l'éducation, il y a les deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'aspect revanche de classe où on va empêcher les pauvres de s'éduquer pour les maintenir dans un ghetto de sous-culture. Et de l'autre, il y a la volonté d'exploiter les classes moyennes, ceux qui ont justement la possibilité de dégager un tout petit peu d'argent de leur maigre salaire et qui, pour essayer de sauver leurs enfants d'une affreuse école qui en aura tellement dégradé, eh bien, ils enverront leurs enfants dans le privé. Et c'est le rêve anglo-saxon de l'école privée. C'est-à-dire, l'école publique va devenir une poubelle pour les pauvres. Et tous les gens de la classe moyenne vont se saigner aux quatre veines pour payer des études qui vont devenir de plus en plus chères. et qui devienne un business.
Absolument, oui. Tu voulais réagir, Pierre ?
C'est exact. On peut préciser par un exemple, parce que quand on dit que c'est dans un futur proche, c'est pas le cas pour la petite enfance. Pour la petite enfance, on voit arriver, marcher dans les rues, vous allez voir, surtout sur Paris, des petites boutiques qui ont été transformées en garderies minutes. On voit des crèches d'entreprise. On a même le fils Fabius qui est venu faire de la pub à la télé pour parler des crèches d'entreprise en profitant de son nom. C'est-à-dire que petit à petit, tout ce qui pouvait être garderie municipale, collective, etc., disparaît au profit de ces petites structures payées par qui ? Bah, par les parents qui ont la possibilité de le faire, voire par les entreprises qui, pour pouvoir être sûres d'avoir leurs employés bien pressés comme des citrons à travailler jusqu'à 20 heures, ont plus ou moins sur place 3-4 personnes pour garder leurs gamins. Il vaut mieux d'aller voir vérifier si ces personnes qui gardent leurs enfants sont compétents et voir même si, avec ce genre de système, ils sont pas en train de démolir le reste de l'éducation.
Eh bien, voilà. Donc sur l'éducation, c'est fini. Merci. Hein. Donc on va se passer une petite musique et puis on reprendra quand même sur la Tunisie puisque c'était le grand événement de ce mois de janvier. Bonsoir à tous, c'est toujours Fréquence Paris Pluriel et l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Nous sommes toujours en compagnie du PIAF qui est venu gentiment piailler à nos oreilles pour nous parler d'éducation d'Europe et d'international. Quelqu'un a-t-il reconnu la chanson ?
Ouais, c'est Roger Waters, mais c'est parce que je l'ai choisi, donc c'est facile.
Ouais, tu me casses mon effet, là.
C'est un album The Final Cut, pour ceux qui aiment bien, de 87. Et ce titre, c'est Get Your Filthy Hands of My Desert, enlève tes mains de bandit de mon désert. J'aime bien l'esprit.
Oui, c'est peut-être un titre un peu, comment dire, hermétique, on va dire.
Oui, c'est 87, c'est une période très très charnière, puisque c'est quand Waters et Gilmour commencent à s'engueuler.
Ah oui, ça a changé l'histoire du monde.
Et on voit tout de suite ce que ça donne d'être 35 en cours d'anglais.
Hein. Ouais, voilà. Merci Jean-Marc. Alors,
vive l'éducation nationale.
Voilà. Alors, je ne sais pas si tu vas garder la parole, mais on va passer un peu à l'international, puisque Scoop oblige, nous allons dévoiler la prochaine une du PIAF, qui portera sur
la Tunisie.
Voilà, donc le grand événement du mois de janvier avec une couverture d'enfer. Bon, allez, je vais pas tout dévoiler parce que sinon, surtout, mais quand même, c'est une très bonne nouvelle. On croyait plus à la révolution. Nous.
C'est une très bonne nouvelle. Je crois que bon, on va pas insister là-dessus puisque tout le monde l'a dit, même le Figaro, c'est le dire, et même les gens qui ont soutenu Ben Ali depuis 25 ans ont trouvé que c'était une vachement bonne nouvelle. Donc on va pas insister. Par contre, nous sommes très très fiers au PIAF parce que nous avions fait un article il y a quelques mois qui parlait justement de la dictature de Ben Ali et qui annonçait qu'elle s'effritait et qu'il y avait des chances qu'un jour proche, on ne pouvait pas évidemment connaître la date, le dictateur s'écroule.
Alors quelles étaient vos sources quand même? Vous avez fait mieux que les services secrets français.
Alors là, c'est exceptionnel dans l'histoire du PIAF, c'était un envoyé spécial.
Ah, carrément, vous avez payé quelqu'un
membre
pour aller
du comité
sur
de rédaction,
place.
Un proche de chez proche qui était sur place à un meeting politique interne en Tunisie, vu qu'il y a beaucoup de
Ah oui, c'était encore autorisé, ça? C'est autorisé à l'époque,
oui, c'est toujours des principes assez bizarres de ces dictatures, comme pouvait dire notre cher ministre de la Culture, univoque, je sais pas trop ce que veut dire ce terme, lui non plus sûrement. C'est-à-dire des dictatures qui pouvaient afficher une fausse opposition. C'est comme en Algérie ou en Égypte, où, bon, ils viennent d'arrêter les frères musulmans cette semaine, mais jusqu'ici, pour permettre que cette explosion de révolte islamique, en l'occurrence, n'explose. Il y a une dizaine d'années, Moubarak avait donné tant de places de députés aux frères musulmans, vu que les élections sont relativement truquées, ils pouvaient assurer le nombre avant l'élection.
Absolument, oui, c'était des dictatures à façade démocratique. Alors, je suis même pas sûr que Ben Ali en était là. Alors, on a dit, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses hein, de Ben Ali. Vous avez quelque chose à ajouter ?
Oui, j'avais juste à ajouter que, bon, pour faire plus fort que les services secrets, il y a aussi un moyen simple qui est Internet. Et quand on sait utiliser Internet et les correspondants, ben, on peut trouver des informations plus fiables que les services secrets français, l'Élysée, MAM et compagnie.
On a vu aussi en Tunisie que les journaux, les bouquins avaient été interdits et viennent d'être mis en place. Ça fait exalter le peuple qui a trouvé ça très bien. Mais comment ils pouvaient avoir des informations sans avoir le journal quotidien?
Toute la façade maghrébine a un certain nombre d'antennes satellites braquées sur l'Europe et peut avoir accès à ça. Il est assez facile finalement de contourner la censure Internet par tout plein de systèmes de hackers qui sont à la portée de pas mal de monde. Donc oui, le peuple tunisien était informé. Et puis ce qu'on évoquait tout à l'heure en off, c'est que finalement le niveau d'éducation de la Tunisie est aujourd'hui très élevé. On peut jeter des pierres sur Ben Ali autant qu'on veut. Il a laissé permettre toute la population, y compris la population féminine, aller faire des études supérieures. Ils ont un degré d'éducation qui est sans précédent dans le monde arabe et qui est même arrivé, à, par exemple médicalement, à rattraper celui de l'Europe et même de le dépasser parfois. C'est ce système-là qui a fait tomber peut-être Ben Ali, c'est-à-dire que le peuple tunisien savait qu'il était volé, savait qu'il était possible de se rebeller. Chose que peut-être d'autres peuples plus asservis ne peuvent pas avoir comme information.
Alors la vraie question, c'est maintenant. Que va-t-il arriver maintenant? Parce que tout le monde se félicite de la chute de Ben Ali, c'est très très bien. On peut peut-être préciser que finalement, si Ben Ali est tombé, c'est aussi à cause de sa rapacité. La rapacité de quelques personnes, ce qui a permis... il a personnalisé... en quelque sorte son pillage hein, de la Tunisie, ce qui à mon avis ne serait pas, enfin ce qui n'est pas du tout le cas en Algérie, c'est-à-dire que en Algérie on peut supposer que le racket se fait par une classe qui est beaucoup plus invisible et des intérêts beaucoup plus cachés. Mais la question qui est aujourd'hui c'est ce gouvernement, est-ce que c'est vraiment un gouvernement démocratique, est-ce que ça sera un mouvement démocratique, qu'est-ce qui va rester de Ben Ali?
C'est surtout un grand espoir pour les peuples arabes, parce qu'apparemment l'Égypte va peut-être suivre, peut-être aussi l'Algérie et le Maroc, enfin on ne sait pas, si tout le monde pouvait suivre la révolution tunisienne.
Non, la question que je posais en fait, c'est finalement quel est votre sentiment, vous dites, par rapport à cette révolution, hein, c'est-à-dire, je crois que la couverture c'était un drapeau tunisien en forme d'interrogation, ça sera un drapeau tunisien en forme d'interrogation. Voilà, contrôle du peuple, pas contrôle du peuple, démocratie, pas démocratie.
Alors, je crois qu'il faudrait vraiment être grand devin pour pouvoir se permettre de faire des pronostics fiables. Ceci étant, je voudrais faire une remarque à ce qui vient d'être dit, c'est que je crois que c'est un espoir pour tout le monde, pas seulement pour le monde arabe. On a tendance à vouloir circonscrire, et je crois que c'est aussi une volonté de normalisation là de la presse européenne de limiter l'explosion au monde arabe, parce que si on disait que ça peut dépasser le monde arabe, ça pourrait donner des idées au peuple européen, qui, tout en vivant dans des démocraties, se font racketter. Donc, en disant ça va donner des idées au peuple arabe asservi, qui ont des affreux dictateurs, ça permet, par avance, de limiter l'incendie. Or, l'exemple tunisien, il pourrait être applicable dans la plupart des pays européens actuellement. Évidemment, on ne connaît pas les mêmes degrés de misère pour l'instant, mais on y arrive. Alors, en ce qui concerne la situation en Tunisie, évidemment, c'est très incertain. Tout le monde souhaite la démocratie. Le gouvernement actuel, qui n'arrête pas de changer d'ailleurs de jour en jour au fur et à mesure que les manifestations continuent, on ne sait pas du tout s'il va pouvoir se maintenir, si l'armée va faire un putsch ou si l'armée va choisir le camp de la démocratie. Si on peut voir naître une démocratie sous contrôle de l'armée, un peu comme ça s'est fait il y a une vingtaine d'années en Turquie. Qui, avec une démocratie qui fonctionne effectivement, mais avec une tutelle de l'armée qui garantit la laïcité, c'est une hypothèse. On peut très bien imaginer qu'un membre un peu moins rapace et un peu plus présentable de l'intelligentsia, donc benaliste, va réussir à reprendre le pouvoir par démagogie. On peut imaginer tous les scénarios. Et donc les Tunisiens ont raison de rester dans la rue parce qu'il va falloir qu'ils soient extrêmement vigilants et je pense qu'il va falloir qu'ils restent dans la rue pendant des mois.
Alors une autre question aussi, c'est l'attitude de la France, hein, bien sûr. Est-ce que vous pensez sincèrement que, mettons, électoralement, on peut faire payer, par exemple, un gouvernement pour un soutien affiché à une dictature. Dit autrement, est-ce que, par exemple, la bourde de Madame Alliot-Marie, qui n'est pas forcément une bourde, hein, faudrait pas se tromper, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être porté sur le terrain politique ?
Globalement, sur un parti, peut-être pas. On peut espérer que ceux qui sont enfoncés jusqu'au dernier jour dans le soutien à Ben Ali prendront localement sur leur petite circonscription des claques électorales ou même que leur parti leur diront gentiment de se faire oublier. Mais quand on peut imaginer tout ce qu'a pu déclarer certains grands hommes politiques dans leur histoire, quand on va se rechercher des déclarations de 10 ou 20 ans de Juppé, de n'importe qui, même largement au Parti Socialiste ou autre, c'est des gens qui, pour des raisons diplomatiques, acceptent d'aller rencontrer tel ou tel grand dirigeant dictateur. Est-ce que véritablement leur en tient grief lors des élections 4-5 ans, une fois que l'histoire a été oubliée?
Non, mais là justement, on a une révolution et puis on a surtout des gens qui ont accumulé des erreurs, enfin qui ont fait plus que de la diplomatie là. Hein, quand on propose d'envoyer des policiers
pour mater les, oui, c'est vrai.
Voilà. Dans le climat aussi, c'est quand même.
On voit le rapport global, que ce soit des Mitterrand ou des Chirac sur un temps de démo de diplomatie sur 30 ou 40 ans par rapport aux dictatures en Afrique de l'Ouest, par exemple. On a soutenu, on a mis au pouvoir des dictateurs. Est-ce que on a fait à peu près, peut-être même que le gouvernement actuel fait moins d'actions dangereuses par rapport à ce qu'il a moins de possibilités de le faire, moins de pays sous sa coupe directe. Donc,
mais les temps changent peut-être. Je ne sais pas, mais.
Alors il y a un signe quand même qui montre la démarche démocratique du peuple tunisien quand même, c'est qu'effectivement. On a vu un Tunisien à Tunis montrer le canard enchaîné, ou le piaf, je ne sais plus, pour montrer qu'effectivement la presse était devenue à nouveau libre. C'est quand même un signe quand même que ça va dans le bon sens, a priori.
On peut pas dire le contraire. Ça, c'est sûr que le peuple, ce sont des peuples qui découvrent aujourd'hui l'expression libre. Hein, on peut même dire que même des Tunisiens en France avaient l'habitude de parler à mots couverts, de bien vérifier autour d'eux, tellement le poids d'une dictature se fait au quotidien, dans la rue, se fait dans les bars, se fait même en famille. Si vous connaissez des Tunisiens qui sont en France depuis 10 ou 20 ans et si vous avez discuté avant les événements de ces dernières semaines, il prenait le temps de bien vérifier de ce que vous pensez réellement avant d'avouer quoi que ce soit. Donc la dictature, elle était certainement dans les médias et certainement, mais elle est dans les têtes aussi.
Comme on a vu aussi, c'est que il y en a qui ont été virés de Tunisie, qui étaient dans un gouvernement et qui sont revenus et qui ont été acclamés. Qu'est-ce que ça ferait si on virait quelqu'un de France? À votre avis, de France et qui revenait en France et qui revenait au gouvernement. Quelle est votre opinion là-dessus ?
Christian, tu peux poser ta question parce que c'est la dernière. Après, on va passer à autre chose.
Non, mais simplement, ça me fait réfléchir à peut-être un renouveau du parlementarisme en Tunisie. Il y a quelques éléments qui montrent qu'en fait, ils essaient de faire des coalitions parlementaires, en fait, avec un risque de retour à la réaction, quoi, hein, avec les anciens qui étaient au pouvoir. Donc on sent bien qu'on est dans une phase un peu intermédiaire. Et ça me fait penser aussi à la Grèce, dans un autre ordre de grandeur. Alors je ne sais pas si la Tunisie a vraiment beaucoup souffert de la crise financière mondiale, simplement ça.
Ce qu'on peut voir, c'est que la crise, elle a eu les mêmes conséquences un peu partout. Et en Tunisie, ce sera plus la faim et le chômage, puisque les denrées alimentaires ont beaucoup augmenté. Et du coup, ce qui s'est passé en Grèce toute l'année, c'est aussi la conséquence de la crise. Donc on a vu un député se faire taper dessus, et on a vu beaucoup de manifestations de toute façon dans toute l'Europe. Et d'ailleurs le directeur du forum de Davos a bien dit en ouverture qu'il fallait quand même faire attention parce que ça pouvait devenir dangereux.
Un des indicateurs, simplement, c'est quand même que la facture alimentaire a sextuplé en 10 ans dans le monde et que c'est pas si anodin que ça.
Voilà, c'est général puisque c'est des taxes sur les carburants, sur les alcools, en Europe en tout cas, sur l'eau, sur les émissions de CO2. Enfin, quand on voit tout ce qui est mis en œuvre en fait pour faire des économies, c'est les gens qui payent quoi.
Ouais, ils ont le SMIC le plus bas parce qu'ils ont un SMIC à 300 dinars. Hein.
Oui, pour parler de la Tunisie. Bon, je propose qu'on passe à autre chose, si sur cette question c'est terminé, parce qu'il nous reste exactement 7 minutes pour faire un packaging où on va à la fois parler des chiffres du chômage, revenir un petit peu là-dessus, et surtout de la négociation de la convention, de la renégociation de la convention UNEDIC, puisqu'il y a quand même 2-3 choses à dire. Christian, je te laisse la parole.
Oui, en relisant les déclarations d'intention des syndicats, comme la CGT, la CFDT, on sent bien qu'ils vont pas s'opposer les uns aux autres parce qu'ils tombent assez d'accord sur volonté d'avancer vers quelque chose de positif. La CFDT reste sur un acquis qui est d'avoir signé seul l'accord qui permettait, avant la mise en place de Pôle emploi, aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'une indemnisation après 4 mois, alors qu'avant c'était 6 mois. C'est vrai que c'est un acquis social qu'elle ne veut pas voir remettre en cause. Donc la CFDT a une position assez centrale, je pense. La CGT, elle va aller plus loin en allant jusqu'à 2 mois. Donc c'est vrai que ça pose des questions sur la lutte contre la précarité. Donc je crois que derrière ça, aussi avec l'augmentation du chômage des seniors malheureusement, et aussi des entrées au RSA, je pense que les syndicats vont essayer de vraiment se poser ces questions sur la précarité.
Oui, alors là, évidemment, tu parles que des positions syndicales, bien entendu, et quid du MEDEF? Quelqu'un a une info là-dessus, là?
Ben, on a appris qu'il... C'est quoi Piaf nous a dit qu'il voulait supprimer le Conseil des Prud'hommes, c'est ça, non?
Oui, bah c'est un article de Gérard Filoche.
Qui a gentiment bien voulu qu'on reproduise dans le PIAF, Gérard Filoche ayant une aura largement au-delà de notre journal, et qui, depuis longtemps, en tant qu'inspecteur du travail, écrit sur la fin des prud'hommes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué. Les prud'hommes ont été créés dans la douleur au siècle dernier et sont aujourd'hui très très mal vus. On peut voir des hommes politiques de cette droite dite libérale, qui n'est jamais qu'une droite comme une autre, rappeler que les prud'hommes sont là pour empêcher le commerce, sont là pour empêcher la fluidité du marché du travail et du marché tout court. Il faut donc les détruire. C'est cette phrase-là qui est dangereuse.
Sur le MEDEF, a priori, ils veulent pas que ça bouge beaucoup. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine suspicion par rapport au lien CFDT-MEDEF, comme parfois...
Je rappelle que la CFDT est la seule centrale qui avait signé l'accord précédent et que c'est le co-gestionnaire de l'UNEDIC.
Donc il y a un paradoxe aussi dans cette position. C'est vrai que je pense que Monsieur Chirac va avoir pas mal de dialogues à maintenir avec les autres organisations syndicales.
Alors dis-moi, je te coupe parce qu'il y a un truc quand même qui m'a un peu... halluciné. Bon, c'est un peu la crise en ce moment, et puis on lit comme ça tout d'un coup que l'UNEDIC fait des prévisions fabuleuses. En fait, c'est le pays des merveilles, c'est-à-dire que d'ici 2014, on aura créé 300 000, enfin, pas 300 000 emplois, il y aura 300 000 chômeurs de moins. Donc oui, c'est super, on se dit putain, c'est génial. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même une clause dans la convention qui fait que le retour, on va dire, à l'équilibre annuel du budget, hein, l'équilibre du budget annuel de l'UNEDIC, fait qu'on a le droit que le MEDEF peut baisser les cotisations les cotisations patronales et salariales sur l'indemnisation des chômeurs. Donc finalement, on a encore l'impression, c'est toujours un peu le même scénario qui se joue, on nous promet un projet de nouvelle société, on nous promet un avenir rose pour réduire les charges des patrons et mettre à nouveau l'UNEDIC dans le rouge.
Il y a des choses qui sont assez inquiétantes. C'est par exemple les fins d'allocation de formation qui ont été supprimées, c'est-à-dire qu'une personne pouvait faire une formation plus longue et on n'était pas interrompu en rémunération. Ça a été supprimé depuis peu, donc c'était l'AFDEF, ça s'appelle, cette allocation. Donc il y a aussi une volonté de réduire l'effort de formation professionnelle.
C'est moins social, c'est-à-dire on va essayer de faire des économies d'échelle, on va essayer de faire des économies de charges fixes. C'est vraiment une logique de, j'ai pas envie de dire de RH, c'est une logique de compta analytique pure et dure, de contrôle de gestion, sans état d'âme. Donc je pense que les syndicats ont intérêt à se poser des questions de cet ordre-là, c'est pourquoi on le fait en fait. Hein, je pensais quand même remettre l'individu, l'homme et la femme au milieu de la société, et puis donner un avenir aux enfants, parce que moi je sais pas, je cite un exemple, des métiers disparaissent, hein. Y a une mécanisation de productivisme qui fait qu'on a moins de besoin de personnel, par exemple dans les prothèses dentaires, des trucs qu'on n'a jamais vu. Donc il y a une mécanisation des prothèses dentaires, et dans 4-5 ans il y aura peut-être plus de prothèses dentaires comme on a connu, il y en aura peut-être 10 fois moins. Donc toutes ces questions-là, je pense, c'est de l'ordre du prévisionnel. Donc je pense qu'il ne faut pas que ce soit le débat soit écourté. C'est important qu'ils prennent le temps de bien réfléchir à ça.
D'accord, merci. Alors cette émission va se terminer. Jean-Marc, tu veux peut-être ajouter une dernière chose.
Oui, je voudrais dire qu'il y a quand même une chose qui est troublante, c'est que le chômeur est en train de devenir un produit en lui-même. C'est-à-dire que le chômeur coûte, donc on lui réduit ses allocations, mais en même temps, le chômeur est un produit parce qu'on lui paye les stages. Et les stages font engraissent des sociétés de
absolument, oui.
De formation.
Le chômage est devenu un marché.
Et pour finir peut-être la petite blague, c'est Pénélope Fillon, la femme de notre Premier ministre, qui a réussi à faire une grande œuvre pour les chômeuses en payant à une poignée de chômeuses un stage de relooking. pour qu'elle soit plus vendable.
Et ça fait un peu d'argent là-dessus, bien entendu. Merci. Alors cette émission se termine. Donc je vous rappelle que c'était le PIAF pour une information alternative, forcément, que vous pouvez retrouver sur le site www.le-piaf.org. Comme ça s'écrit, on mettra bien sûr le lien sur notre site. Vous pouvez contacter à l'email contact@lepiaf.org toujours. Et vous pouvez même vous abonner, parce qu'ils ont un abonnement gratuit, un service d'abonnement. Non, c'est pas vrai, vous payez le timbre. Voilà. Merci d'être venus, messieurs. Je voulais signaler la sortie récente, enfin au moins 2 semaines, d'un bouquin qui nous intéresse, parce qu'on a pas mal parlé ici, qui est de Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, et qui s'appelait Pour une révolution fiscale, un impôt sur le revenu pour le 21e siècle. Donc c'est au seuil. On en reparlera de toute façon le mois prochain, puisque Thomas.
Juste une info, une dernière, c'est aujourd'hui l'agence Cardinet à Paris a été envahie par une délégation de précaires en CDD qui voulaient manifester leur désaccord parce que suite à 90 départs en retraite d'agents Pôle Emploi, il y aura pas d'embauche. Donc ils voulaient montrer par cet acte-là, avec le syndicat SNU et Sud, qu'ils étaient vigilants et qu'en fait Pôle Emploi, il y a des gens qui y travaillent, mais on sait aussi ce qui s'y passe.
D'accord. Je dois aussi rappeler que la Cité de l'immigration avait été de nouveau occupée par les sans-papiers. Bravo, messieurs. C'est bien les liens symboliques comme ça. Merci. Et puis, la semaine prochaine, ce sera Gilles ou Odile.
Salut.
Bonne soirée.
Tu peux la sentir, car ma rage, je ne peux la contenir. Mes limites sont atteintes, frère, je ne peux me retenir. Le fruit pourri de mes frustrations, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Quand mes complices font du hors-piste, le système les met hors jeu. Dans un monde à part, quand ma notice, des enfermés sont hors d'eux. Meurs d'un sida carcéral, donc c'est la merde. C'est pour